Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Je m'étais promis de battre Paul. Je ne sais pas si la commission a déjà commencé aussi tard le matin.
Ben, je regarde pas, moi.
Là, non.
Toi, mais... Nathalie? Non, je te confirme, Alain, qu'elle a... Non, elle n'a jamais... Et moi, je te rappelle que j'ai une émission en 10 heures, hein, oui, en passant. Je...
Mais je suis assez fier de moi, finalement. J'ai réussi à battre Paul.
Ah, ouais,
je fais
bon,
mieux
c'est
que
bon.
Paul.
C'est bon.
OK, bravo. Premier sujet, on va parler d'un récent sondage assez étonnant. 2 employés sur 3 de Revenu Québec ne veulent plus retourner au bureau, veulent faire du télétravail à un point tel qu'ils songeraient à démissionner. Est-ce qu'on devrait les obliger, Luc, à revenir au bureau ou on les laisse travailler à la maison?
C'est une bonne question, puis c'est sûr que ça sera pas la même réponse pour chaque employeur. Là, évidemment, c'est une négociation, hein, parce que le syndicat a beaucoup de crottes sur le cœur par rapport à l'agence du fisc québécoise, comparé avec les agences de fisc du reste du Canada, sont moins payées, moins d'autonomie, etc. L'ambiance serait pas bonne, selon le syndicat. Il en profite pour faire un coup en disant, là, vous allez pas nous obliger à revenir au travail. Mais il y a d'autres employeurs qui ont été pris dans la même situation. Là, Apple, ils ont eu une fronde de quand ils ont dit ça. Vous revenez au travail. Il y a eu une fronde aux États-Unis, en Angleterre. Non, on ne revient pas au travail. Il y a Facebook puis Google qui ont dit, au contraire, nous, on vous encourage à rester à la maison et même à vous éloigner si vous voulez. Là. Vous pouvez travailler de la campagne, vous pouvez aller n'importe où. Donc, chaque employeur a une situation différente puis des outils de négociation différents.
Et Elon Musk, lui, a dit, c'est le travail à la maison après avoir fait au moins 40 heures au bureau.
Oui.
Elle est bonne. Ben, tu sais, tu as des agences qui ont du fric en masse, Goodman & Sachs, là, qui paient les repas maintenant, puis donne des goodies, puis 96 $ par jour pour le déplacement, pour les déplacements, là, un montant forfaitaire pour ceux qui viennent travailler. Donc, il va y avoir plein de négociations. Ça va dépendre des employeurs. Il y a des occasions d'améliorer leur sort pour les employés. Il y a des occasions aussi importantes, j'en parlerai tantôt, pour les gestionnaires de faire un peu de ménage dans les
employés.
Mais
là, on parle de 2 jours par semaine actuellement. Là. Ils sont pas retour à temps plein au bureau. Là.
Non, mais ça va être pire. Là. Ça va être pire. Nathalie, je te donne le micro après, mais juste te dire une chose. Si l'employeur veut faire des économies, y en a qui ont dit, il va y avoir des économies, télétravail, on va réduire le nombre de bureaux. Ben, si tu fais ça, tu modifies la configuration des bureaux. Ça veut dire que la personne qui revient 2 jours par semaine, elle n'a pas son bureau comme avant. Là.
Ouais.
Donc, les conditions de confort sont différentes en plus. Quand tu reviens, ça va être plus pénible si l'employeur fait des économies. Alors, ça aussi, ça va être à mettre dans la balance.
Ben, un autre élément de contexte dans ce que tu as ajouté, Luc, que les employés de Revenu Québec sont sans convention collective depuis 15 mois. Donc, il y a certainement un peu de stratégie syndicale là, dans la part du SPGQ par rapport à cette sortie, parce que j'avoue que le titre frappe l'imaginaire. Là, 2 employés sur 3 Revenu Québec sont mécontents parce qu'on les oblige à retourner au bureau 2 jours semaine et puis qui effectivement menacent de démissionner. Moi, j'ai envie de vous dire ceci, là. Au Québec, à ce que je sache, le droit de gérance, ça existe encore. Un gestionnaire puis un patron encore, j'espère, en 2022, de la latitude quant à la façon dont il gère ses employés, dont il est responsable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la prérogative d'établir un horaire, tu peux le faire avec tes employés, mais à la fin, ça appartient au patron de dire, écoute, sais-tu quoi? Oui, le télétravail, on sait, a révolutionné l'organisation de ce merveilleux monde qu'il travaille depuis la pandémie, et toutes les organisations étaient confrontées à ça. Tout le monde s'est repositionné. Mais là, ce que le Revenu Québec dit, à partir d'une politique cadre établie par le Conseil du Trésor, c'est que vous allez venir 2 jours semaine obligatoires. Il me semble que c'est pas exagéré. Il y a certainement des exceptions, là, puis j'en parlerai un peu plus tard parce qu'elles existent, ces exceptions. Mais il me semble que dire à tes employés, garde 2 jours par semaine, viens au bureau, parce que dans cette politique cadre adoptée par le Conseil du Trésor, dans les responsabilités de l'employé, il est écrit, et je cite, « prendre part activement la vie de bureau par sa présence régulière ». Alors moi, je pense qu'il n'y a pas d'exagération. Deuxièmement, il faut savoir que Revenu Québec, c'est 5 500 employés. Si... car écoute, la moitié de ces de deux employés sur trois menacent de démissionner. Là, t'as un méchant problème.
Là. Mais là, ouais, Nathalie, tu parles de la vie de bureau. Oui. Donc, là, c'est l'aspect plus social de la chose. Je comprends ouais. pas. Tu sais, je peux pas te dire en détail ce que les gens de Revenu Québec font, mais à mon avis, c'est beaucoup du travail par ordinateur, là. Ça doit être...
Ça, c'est un bon point, Alain, parce que encore faut-il qu'il y en ait de la vie de bureau, là. Il y a plein d'études qui démontrent que les employés qui reviennent au travail, là, est-ce que il faut qu'il y ait une valeur ajoutée là? Est-ce que par exemple tu as des tâches connexes? Former les nouveaux employés, hein, par ta présence et le contact que tu as avec un employé, mais si participer à du travail d'équipe, participer à la prise de décision, toutes des choses où tu as besoin d'être sur place. Sauf que il y a beaucoup d'employés qui reviennent, il y a zéro vie de bureau là. Il y a aucune tâche connexe, il y a aucune participation, il y a aucune formation, il y a rien, tu es dans ton cubicule, c'est comme si tu étais dans ton sous-sol. Puis quand tu ouais. parles avec un employé qui est à l'autre bout de l'étage, tu le parles par Zoom. Fait que il n'y en a pas de gain dans certains cas.
Dans certains cas, voilà, parce que les nuances sont importantes dans ce débat-là. Mais en même temps, ce que j'ai compris, moi, collectivement, lorsqu'on a dit oui au télétravail, on n'a pas dit oui au télétravail à 100%. Ça, j'ai compris ça. Et moi, je pense que l'employeur a encore le droit de dire, de lever la main pour dire, sais-tu quoi? OK. Deux jours, c'est trop. Peux-tu venir une journée? Une journée à toutes les deux semaines? Ah, peut-être. Tu comprends? Puis c'est sûr que dans l'équation actuellement, il y a le fameux prix de l'essence. Il y a ça, c'est important. Il y a le nombre d'heures que tu économises dans une semaine parce que tu demeures à la maison. Parce que les études démontrent qu'il y a eu des bénéfices autant pour les employés que pour l'employeur dans le télétravail. La flexibilité des horaires, la réduction du temps de déplacement, la conciliation travail-famille vue personnelle. Pour les entreprises, il y a eu des gains de productivité plus d'efficacité, baisse du taux d'absentéisme, augmentation des heures travaillées. Donc, le télétravail a procuré des... En fait, et relativement, on peut dire qu'il est assez positif. On peut que dire non, plus qu'assez. On peut dire que c'est positif dans notre société.
En autant qu'il y ait d'équité, Nathalie. En autant qu'il y ait d'équité, parce que, tu sais, tous les gains que tu viens de mentionner là, ça, c'est pour les employés qui peuvent en faire autant qu'ils veulent ou du moins beaucoup. Il y a beaucoup d'employés qui ne peuvent pas en faire. Moi, je pense que ça va se traduire dans la rémunération.
Mais là, c'est élargi le débat un peu là sur le télétravail dans le contexte de congestion routière, de prix de l'essence.
Ouais. Ben
si
oui.
tu pousses le télétravail, tu diminues, on l'a vu là au cours des deux dernières années, là, tu baisses la congestion, le prix de l'essence, la demande va être moins grande, alors le prix risque de baisser aussi. Là,
il y a toute la question des jours de maladie. Hein, parce que est-ce que tu donnes un jour de maladie à quelqu'un qui est à la maison? Est-ce que tu sais, il y a des gens qui prennent un jour de maladie pour accompagner les enfants à la garde à un rendez-vous médical, chez le dentiste ou quoi que ce soit là. Là, la personne qui elle, oui, d'accord, mais l'équité. Si t'es une personne qui doit venir au travail, puis est obligée de prendre une journée parce que lui il accompagne un enfant à la maison, une mère de famille par exemple, l'autre à côté travaille à la maison, aura pas besoin de prendre une demi-journée pour ça. Alors, l'équité, ça va être important. Moi, je pense là, que dans toute cette négociation, il faut que ça soit négocié là, bureau par bureau. Puis je vais dire une affaire, il y a un gain potentiel, mais les cadres dans la fonction publique sont pas snoro, OK? Mais moi, j'avais une directrice générale qui était snoro et qui, quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait une affaire comme 16 employés en disponibilité, toi. Ils travaillaient pas, mais ils étaient payés parce que, imagine-toi ces personnes-là à la maison. Il travaillait pas, mais il était payé. Elle, ce qu'elle faisait, elle disait, OK, tu travailles pas, ben, tu vas rentrer ici à 8h30 tout le matin, puis arrive pas à 8h35.
Mais à l'inverse, moi, je vais te parler de cas que je connais, de gens qui finissaient à 6h, 6h15 le soir, parce que quand ils finissaient de travailler, même si c'était plus tard qu'à l'habitude, ils montaient l'escalier où ils descendaient, puis ils étaient rendus dans la cuisine. Ça fait que t'avais pas à te taper le retour à la maison, voilà.
C'est clair,
le trafic.
Oui, mais c'est dans ce sens-là qu'il y a un gain d'efficacité, puis on a augmenté les heures travaillées. Et ça, c'est prouvé, là. Mais Luc, c'est sûr que tu dis ça prend de l'équité, tout ça, mais dans le cas du gouvernement, il y a une politique cadre qui a été établie par le Conseil du Trésor et les ministères, les gestionnaires, évidemment, sont assujettis et les employés à cette politique cadre. Mais il y a quand même de la latitude qui est donnée aux gestionnaires sur le terrain. Dans ce cas-ci, bon, c'est sûr qu'il va y avoir une négociation. Je le disais, le syndicat a entrepris une partie de de faire parce que la convention collective n'est pas renouvelée depuis 15 mois. Mais en même temps, il y a des cas d'exception qui existent, puis je vais vous en parler parce que le cas d'une employée embauchée durant la pandémie, à vie, parce que ça, c'est réel, là, à vie à la belle, elle doit travailler, son gestionnaire elle dit, tu vas venir travailler à Sainte-Thérèse. Il y a 120 km qui séparent les deux villes. Elle dit, ben voyons donc, je ne peux pas aller travailler deux jours semaine, moi, embauché durant la pandémie en télétravail. Moi, j'aurais jamais accepté le poste si les conditions étaient différentes. Puis aujourd'hui, ben, elle se retrouve à faire du camping parce qu'elle doit aller deux jours par semaine. Alors ça, ce genre, ça, c'est, moi, j'appelle ça une hérésie parce que probablement qu'elle serait plus efficace si on lui trouvait un autre bureau plus près de son lieu de travail parce qu'embauchée durant la pandémie. Mais ça, ce genre d'exception, il y en a. Et les gestionnaires doivent avoir effectivement de la latitude pour pouvoir régler, trouver des solutions à ce genre de cas. Parce qu'oubliez pas que la fonction publique, comme d'autres employeurs, elle a discuté à retenir ses employés. Donc, il faut que tu crées des conditions optimales pour les garder. Et on parlait de Revenu Québec. Tu disais tantôt, Alain, je ne sais pas ce qu'ils font Revenu Québec, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ministère qui est hautement stratégique dans une société, dans un gouvernement. C'est celui qui peut...
Non, mais je veux dire qu'essentiellement, ils doivent travailler via un ordinateur, eux autres. Là.
Oui, mais en même temps, il faut que ce soit hyper sécurisé parce que on travaille avec les deniers, avec les informations confidentielles des particuliers, des entreprises. Et c'est le ministère qui s'acquitte des obligations sur le plan fiscal. C'est le ministère responsable de l'évitement fiscal. Excuse-moi, tu fais pas une enquête sur des présumés fraudeurs assis dans ton salon, je sais pas. Là,
avec une longue vue, tu es en train d'en garder au loin.
OK, on va s'arrêter. Au retour, le rapport de la commission.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Et comme à tous les vendredis, on passe au rapport de la commission et on va commencer avec Nathalie aujourd'hui.
Oui, je vais faire ça vite, Alain. L'heure est venue pour le gouvernement de Justin Trudeau de donner son accord au projet de loi C-215. C'est le projet de loi qui vise à prolonger de 15 à 52 semaines le chômage maladie. Je tiens à féliciter ce matin Jacques Gourde, le député conservateur de Lévis-Lotbinière, qui a dénoncé le scandale libéral à plusieurs reprises. Mais il y a un autre scandale dans cette histoire-là parce que ce projet de loi a été adopté en deuxième lecture hier. Sur 174 députés qui ont voté pour, 151 ont voté contre. Et je vous laisse deviner qui sont les députés qui ont voté contre cette réforme de la loi sur le chômage maladie. Les libéraux de Justin Trudeau ont tous voté contre. Alors, le projet de loi va poursuivre son cheminement, sauf que moi, j'implore M. Trudeau et ses troupes de dire oui, parce que le chômage maladie 15 semaines, là, c'est l'appauvrissement malheureusement assuré pour plusieurs personnes. Il y a 450 Canadiens qui, à chaque jour, font appel à l'assurance chômage maladie. Il faut que ce projet de loi soit adopté.
Mais comment ça, les libéraux qui ont dit non?
Je sais pas. Écoute, parce que c'est un projet de loi privé. Est-ce que c'est parce que c'est un projet de loi privé supporté par un député conservateur? Mais en même temps, tu sais comme moi, Luc, que c'est genre de dossier qui n'est pas... c'est transpartisan, là. Tu sais, c'est... Ça fait des années, des décennies qu'il y a toutes sortes de groupes dans la société qui lèvent leurs mains pour qu'on puisse prolonger le nombre de semaines de chômage maladie auquel on a droit. Puis ça coûte pas un sou au gouvernement parce que c'est la caisse d'assurance emploi, évidemment garnie grâce aux contributions des employeurs et des employés qui permet de financer ce genre de mesures. Alors voilà, le provocateur, ce n'est pas le titre d'un nouveau film hollywoodien, mais le ministre Simon-Jolin Barrette qui provoque et nous impose l'agenda nationaliste identitaire de la CAQ. Peut-être avez-vous entendu ce qu'il a dit cette semaine. Ça n'a pas fait grand bruit sur le plan des médias parce que c'est peut-être un débat qui semble un peu ésotérique, mais moi, ça a retenu mon attention. Il a déclaré que le Québec devrait se gouverner en fonction de sa propre charte des droits et libertés plutôt que celle d'Ottawa. Et il a continué d'affirmer en disant, puisque cette charte n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale, il y a un déficit de légitimité. Monsieur le ministre souhaite une conversation collective sur la façon d'évaluer les lois du Québec. Imagine-toi. Premièrement, j'invite le ministre à ne pas faire perdre notre temps parce que les Québécois ont la tête ailleurs et le Québec fait toujours partie du Canada, au cas où il ne le serait pas. Et moi, je vois ça comme une déclaration de guerre contre Ottawa pour donner du gaz à la campagne de la CAQ, une campagne qui s'annonce intéressante et corsée. Alors, une stratégie, selon moi, qui n'a rien de très subtil. Les anarchistes s'ennuient. La presse nous apprenait hier que le mouvement pour la liberté, pour ne pas dire liberté, organisera des événements tout l'été à Ottawa. Les organisateurs veulent établir un camp semi-permanent à l'est de la ville. Le Camp Eagle, imaginez. Fait que si vous cherchez quelque chose à faire cet été, une activité en famille, bien peut-être que ça va vous intéresser. Alors, les vétérans pour la liberté, c'est complètement fou, là. Écoute.
Là, ils vont protester contre quoi?
Ben, en fait, premièrement, ils demandent la fin de ce qui reste mesures de mesures sanitaires. Exactement.
Oui, mais écoute, là, tu peux prendre l'avion sans être vacciné, puis besoin de passer de tests.
Oui, mais est-ce que tu veux-tu priver les gens de manifester, toi?
Non, je veux pas leur priver, mais au moins trouver une cause qui,
Ben, moi, je pense que c'est important, là, de pas venir en camion, ce coup-là. Venez en VR.
Ah, non, mais là, Luc, excuse-moi, là, mais parce que, enfin, ils vont même tenir une conférence de 3 jours la semaine prochaine. Et puis, ben, moi, j'ai envie de vous dire simplement solidarité avec les citoyens d'Ottawa, qui devront composer avec, je les appelle, moi, les pseudo-émules de la démocratie. Parce que là, ils se drapent dans des beaux principes, la liberté, puis ta-ta-ta, mais finalement, c'est de la frime, tout ça. Et ben, je vais terminer rapidement avec, ben, ma belle, en vous parlant de ma belle Gaspésie. La Gaspésie, la bien-aimée sur le plan touristique, mais la négligée sur le plan des transports. Le journal Le Soleil titrait hier la rénovation du rail jusqu'à Gaspé, plus long que sa construction il y a 100 ans. Le rail en Gaspésie, c'est la deuxième infrastructure de transport la plus importante après la route 132. Et là, je me disais, oh, le deux poids, deux mesures. T'sais, je sais que c'est facile à dire, mais je voyais le REM de l'Ouest et qui était planifié, construit, opérationnel en 6 ans. Puis notre belle Gaspésie qui devra attendre, j'espère pas 100 ans, là, pour voir son rail rénové, parce que le rail est en piteux état, il faut le rénover. Et comme les touristes aiment bien la Gaspésie, ça pourrait offrir une autre alternative pour les gens de se déplacer si on avait un rail opérationnel jusqu'à Gaspé.
Beverly!
Luc!
Moi, je pense que je vais y aller au camp des Eagles, là, à Ottawa.
Oui. Oh, wow, non, je vais y aller.
Et tu vas protester contre?
Non, mais ben, je vais avoir une grosse affiche. Ça va être marqué « Feu de camp, bois, 12 $
Spa à vendre.
Guimauve, ouais, spa, guimauve.
Il y a de l'argent à faire, d'accord.
Ben oui, ben oui. Alors, j'y vais sur le thème des bonnes nouvelles municipales. Ça va bien, ça va bien. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, premièrement...
C'est un terreau que tu connais bien, toi.
Oui, ça. Alors hier, la CMM qui a annoncé protéger 6 golfs avec un règlement de contrôle intérimaire. Un règlement de contrôle intérimaire, ça veut dire que pendant 2 ans, là, on met un zonage qui s'appelle intermédiaire, puis on prendra la décision après 2 ans, mais il faudra l'acheter dans 2 ans. Alors, 6 golfs, dont le Bel-Oeil, le club de golf de Candiac, municipal de Chambly, Mascouche, l'ancien golf de Rosemère, puis le golf Le Boisé à Terrebonne, ça totalise 284 hectares. Pour donner une idée, là, le parc La Fontaine, c'est 35 hectares. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espaces verts qui vont être préservés. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, il faut se demander comment vont payer ça. Ils ont déjà commencé à demander de l'argent à Québec. Ils demandent 100 millions. Mais les nouvelles sont bonnes, par exemple, parce que tu as vu qu'à contre-cœur, il y a un promoteur qui essayait de contester en cours le fait que lui voulait construire des maisons sur un ancien terrain jauni vert et récréatif. Puis, il a perdu. Ça veut dire que c'est un signal pour les municipalités. Arrêtez d'avoir peur des promoteurs. Ils ont plus de dents contre vous sur les terrains qui sont zonés verts et récréatifs. Bravo, ça avance par en avant. Montréal, une ville qui mue. Comprends-tu ça, toi, que c'est comme une chenille qui devient un papillon? Ben oui, parce que à chaque printemps, là, regarde, tu sais, t'as eu des personnalités qui ont décrié Montréal, c'est sale, bien c'est ça.
Moi, ben oui, le papillon, t'es soufflé un peu, excuse-moi, là, mais c'est pas très propre à Montréal.
Écoute, je sais pas si tu traces un peu de change, là, mais je vais t'amener boire une coupe de verre à Montréal en fin de semaine. Tu vas voir, Nathalie, que c'est le fun en maudit.
Ah, c'est le Grand Prix.
Mais là, il y a de l'action en ville. Là. C'était les Franco,
ben
le Grand Prix.
Oui, tout
là.
Ça. T'es les arbres, les fleurs. T'as eu les cérémonies des diplômes. Après ça, t'as eu les rues se sont embellies. Et il y a de l'embellissement permanent. Là. Il y a l'embellissement... Juste la rue Mont-Royal. Bon, on va commencer par la temporaire. La rue Mont-Royal, ça doit être une des plus grosses rues piétonnes là, d'Amérique, là ou plus même. Là. 3 kilomètres. Puis avez-vous vu ce qu'ils vont faire? C'est magnifique. Moi, hier, je l'ai fait d'un bord à l'autre. Là. Venez voir ça. Là. Ils ont mis des arbres partout. Le centre-ville aussi, il y a beaucoup de nouvelles installations qui arrivent à terme. Là, ils viennent d'être terminés. Le Square Philippe, la rue Sainte-Catherine qui a été faite, l'Esplanade Tranquille, la Place des Arts est refaite depuis à peu près 1 an et demi, mais quand même, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Tu sais, le Square Dominion, même chose. Ça commence à être beau. Ça commence à être beau. Moi, je fais la contre comment dire déclaration par rapport à ceux qui ont dit poche Montréal. Là, je trouve moi qu'au contraire.
C'est une ville en transition, on peut dire que c'est une ville
en transition. C'est ça. Ouais. Magnifique, 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 magnifique.
Mais on a toujours tendance quand tu vas ailleurs, c'est toujours bien beau.
Ah,
puis tu
ça.
Dis, hein, c'est bien plus beau que chez nous, mais parce que tu sais on vit ici. Quand tu vas à Rome, tu vas à Londres, tu vas à Paris, tu vas à Barcelone,
exactement,
tu vois ça avec tes yeux de touriste.
Ben Alain, hier, il y avait des touristes qui étaient questionnés dans la rue, puis tu disais, mon Dieu que c'est propre. Puis, une chance qu'ils ne sont pas venus il y a 3 semaines.
Non, mais c'est ça, ils viennent avec leurs yeux de touriste,
ouais,
eux
c'est
autres.
Ça.
Alors, c'est pas
ouais,
c'est comme c'est nous autres quand on va ailleurs. Là.
Ça brasse à Projet Montréal? Mais ça brasse dans le bon sens. La mairesse se fait brasser par la base. Elle avait annoncé stationnement gratuit au centre-ville.
Ouais.
Ils ont fait du judo avec ça, là, les conseillers et conseillères. Surtout les conseillères, il reste surtout des conseillères. Mais ils ont fait du judo avec ça, puis ils ont dit, non, regarde, on va pas donner du stationnement gratuit en ville, on va donner du métro gratuit, comprends-tu, toi, des transports en commun gratuits. Bravo! Bravo! On va voir si ça fonctionne. Puis aussi, bravo à la mairesse qui fait preuve de souplesse dans cette affaire-là. Une fois au plancher, elle fait preuve de souplesse, puis déclare, change mon fusil d'épaule. C'est vrai, ça n'a pas d'allure. C'est pas le stationnement qu'il faut qu'il soit gratuit, c'est le transport en commun. Puis ils vont de l'avant avec ça. Il va y avoir 6 stations qui vont être gratuites. On va voir si ça va marcher.
Mais moi, j'aurais ajouté
les fêtes de semaine.
À partir de la fête nationale. Mais moi, j'aurais ajouté la station Longueuil pour permettre aux gens d'entrer à Montréal.
Ben oui, ah oui, Longueuil!
Parce que là, il faut que tu sois déjà à Montréal là, pour...
Mais excellente idée.
Longueuil, excellente là, idée. Ça permet aux gens d'entrer dans
oui,
la ville.
Oui, exactement. Puis on va pouvoir tester si ça fonctionne. Parce que la fin de semaine, c'est tentant de prendre sa voiture. Mais là, on teste ça. On pourrait tester ça. Est-ce que les gens vont l'utiliser si c'est gratuit? Ça serait génial.
Bien, je vous remercie infiniment de m'avoir aidé à battre ce record ce matin. Et je vous souhaite un excellent week-end à tous les deux.
Merci, bravo, Alain.
Bravo. Bravo. Bye.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.